Crédit Immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous dresserons le bilan du dialogue national au Sénégal. Dialogue lancé par le président Bassirou Diomaye Faye. Partis politiques, membres de la société civile, responsables religieux, plus de 800 personnes rassemblées pendant une semaine pour tenter de réfléchir aux moyens de consolider la démocratie dans le pays. Il a notamment été question du déroulement des élections, du système de parrainage, du bulletin de vote unique, du financement des partis politiques et de leur nombre pléthorique. On a également parlé de la création d'une cour constitutionnelle ou encore des droits et des libertés publiques. Voilà quelques-unes des thématiques débattues. Que retiendrez-vous de ce dialogue national? A-t-il été à la hauteur de vos attentes? Et dites-nous si quelques-unes des recommandations vous semblent pertinentes. RFI vous donne la parole ce matin, ce sera dans une demi-heure. 33 9 693 693 1370 et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-ci, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec des questions football. Voilà, on va parler Ballon d'Or. Bonjour, Chibrel. Allô,
bonjour,
Chibrel.
Juan. Oui, bonjour, Juan.
Bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous êtes à Brazzaville, on vous écoute.
Depuis le triomphe du PSG en Ligue des Champions, une campagne active s'est lancée pour voir Ousmane Dembélé décrocher le Ballon d'Or. Mmh. Il a marqué 33 buts et fait 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ce qui est modeste, voire peu, par rapport à d'autres Ballons d'Or dans le passé.
Oh, vous êtes dur, hein, quand même.
À ce stade,
bon, oui, allez-y, quelle est votre question?
À ce stade, est-ce que d'autres joueurs peuvent le concurrencer en termes des statistiques?
Ah, Victor Missistrano, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, journaliste au service des sports de RFI. 33 buts, 13 passes décisives. Bon, je vais aller à contre-courant de Chibrel, c'est pas mal, c'est même une saison extraordinaire, remarquable pour Ousmane Dembélé.
Oui, c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément à ce niveau. Il y a vraiment une métamorphose chez ce joueur cette saison. Au niveau de ses statistiques, c'est pas mal. C'est déjà mieux que Rodri, Ballon d'Or l'an passé, auteur de 9 buts et 15 passes décisives. Ou encore que Vinicius, deuxième, qui avait totalisé 24 buts et 11 passes. Est-ce que ça veut dire que Rodri ne le méritait pas? Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. D'ailleurs, Rodri, c'est un milieu de terrain, c'est pas du tout son métier, entre guillemets, de marquer des buts. C'est tout simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas que les statistiques, sinon on donnerait tout de suite le Ballon d'Or au soulier d'or, de meilleur buteur, en l'occurrence à Kylian Mbappé. Donc je rappelle les trois critères pris en compte par les 100 journalistes qui votent pour ce Ballon d'Or. En premier, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Ensuite, l'aspect collectif et les trophées remportés. Et enfin, la classe et le fair play.
Ouais, et là, pour le coup, Ousmane Dembélé a des arguments. On peut dire qu'il coche toutes les cases.
Ouais, il est l'homme providentiel de la saison du Paris Saint-Germain. Une saison historique où Paris a tout gagné. La Coupe de France, la Ligue 1 dont il a fini meilleur buteur et meilleur joueur, et la Ligue des Champions bien sûr, avec là aussi un impact énorme et un trophée de meilleur joueur de la compétition. Des buts très importants à Arsenal, à Liverpool. C'est simple, depuis le 8e de finale aller contre Liverpool, Dembélé a été décisif à chaque match jusqu'en finale. Une finale où il a délivré 2 passes décisives, il a encore fait un très grand match, mais il n'a pas marqué et sa performance a été un petit peu éclipsée par celle phénoménale de Désiré Doué. Par conséquent, cela maintient le suspense pour ce Ballon d'Or.
Ah, qui pourrait concurrencer le Français? J'ai comme l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a plutôt un duel qui se dessine.
Ouais, un duel contre un certain Lamine Yamal. Lui aussi, il encoche des cases. 19 buts, 26 passes décisives. C'est un peu moins, certes, que Dembélé. Mais on parlait du caractère décisif et impressionnant. Et pour le coup, on fait difficilement mieux que le prodige espagnol de 17 ans, qui est la sensation du moment, qui est sans doute même plus populaire. Il a marqué des buts fabuleux dans les grands matchs, dans les classicos remportés face au Real Madrid. Et puis en Ligue des Champions, il a été exceptionnel, notamment dans cette demi-finale contre l'Inter Milan. 2 matchs aller-retour au scénario incroyable qui ont marqué tous les observateurs. Mais à l'arrivée, on se rappelle que le Barça a donc perdu, ce qui change beaucoup de choses. Peut-être que Yamal sait qu'il est un peu en retard quand il parle de jouer le Ballon d'Or ce soir. un match dans le match, avec Ousmane Dembélé, puisque la France et l'Espagne s'affrontent en demi-finale de Ligue des Nations.
Et match à suivre, évidemment, en direct et en intégralité sur RFI, à partir de 18h50, temps universel. Victor Missisrano, on a parlé donc de Lamine Yamal. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent se mêler à la lutte, à cette dernière ligne droite?
Déjà un coéquipier de chaque côté. Chez les Blaugrana, on pense au Brésilien Rafinha, qu'au meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts. Côté parisien, il y a le Marocain Achraf Hakimi, le prix Marc Vivien Foé 2025, sans doute le meilleur au monde à son poste de latéral, lui aussi excellent en Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert le score en finale. Et puis, comment ne pas citer Mohamed Salah, l'Égyptien, qui serait sans doute le favori si Liverpool était allé beaucoup plus loin que ce 8e de finale de Coupe d'Europe. Avec 29 buts et 18 passes, il a terminé meilleur buteur et passeur de la première ligue remportée par les Reds. Donc ce sera déjà difficile de départager Hakimi et Salah pour le titre de joueur africain de l'année. Pour le Ballon d'Or, tous les prétendants que j'ai cités peuvent encore gagner des points lors du Mondial des clubs qui débute dans une dizaine de jours. Tous, sauf Lamine Yamal, puisque le Barça n'y participera pas.
Et le Ballon d'Or sera décerné le 22 septembre. Chibrel, avez-vous un favori pour le Ballon d'Or?
Je vais voter pour Ousmane Dembélé, bien sûr.
Ah, Dembélé quand même. Donc vous étiez assez critique à son endroit au début, mais malgré tout, vous votez. Vous savez, on a publié un sondage sur la chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. On vous propose de voter pour le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont pour l'instant ex aequo. 2500 votes pour Dembélé, 2500 pour Yamal, et un peu plus de 400 d'entre vous estiment que ni l'un ni l'autre ne méritent le trophée. Donc continuez à voter, je vous donnerai d'ailleurs les résultats finaux demain dans la libre antenne. Merci infiniment Victor Missistrano.
Merci à vous, à bientôt.
Et je remercie évidemment Chibrel qui nous appelait de Brazzaville. Bonjour Fabrice.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à Mathias, ancien de géographie à Fianga au Tchad.
Ah très bien, on le salue également s'il nous écoute en ce moment. Vous êtes à N'Djamena dans la capitale tchadienne et vous avez des questions sur le Nigeria.
Oui, à N'Djamena, tranquille, pied dans l'eau.
Les pieds dans l'eau à N'Djamena en ce moment?
Oui, ça a commencé déjà.
Ah, les inondations. Justement, vous parlez des inondations, vous, au Nigeria également, puisque des centaines de personnes, en tout cas 200 personnes, ont été recensées décédées dans les inondations qui frappent le centre nord du pays.
Oui, c'est plutôt le centre-ouest. Une ville au centre-ouest du Nigeria a subi de très violentes inondations. Des centaines de victimes et des disparus sont à déplorer. Est-ce que cette catastrophe s'explique-t-elle uniquement par le dérèglement climatique?
Oui. Benjamin Sultan est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. La ville en question dont parlait à l'instant Fabrice, il s'agit de Mokoua, incontestablement l'agglomération la plus touchée par les inondations. D'ailleurs, un quartier a totalement été rayé de la carte. Benjamin Sultan, comment expliquer une telle tragédie?
Les inondations dramatiques là, qui sont survenues la semaine dernière coïncident en fait avec le début de la saison de mousson dans la région. Donc c'est un phénomène qui est naturel, qu'on retrouve chaque année à la fin du printemps, en été, qu'on retrouve aussi en Asie. Et c'est un phénomène qui est naturel, mais on s'aperçoit que on observe que c'est de plus en plus intense, provoquant maintenant des inondations chaque année meurtrières, comme celle au Nigeria. Il y a également des pluies très fortes au Tchad également. Et le réchauffement climatique est certainement pour quelque chose, parce qu'on a un air qui est plus chaud et qui peut contenir plus d'humidité. À chaque fois qu'on a un degré supplémentaire dans l'atmosphère, on a 7% en moyenne de plus de vapeur d'eau. Donc c'est un excès d'humidité qui fait que les pluies sont plus intenses. Et aujourd'hui, on a une température globale qui a augmenté de 1,3 degré, et ce qui fait qu'on a déjà augmenté l'intensité des pluies. Et à cause de ce réchauffement, on assiste à des inondations récurrentes en Afrique presque chaque année. Donc vous avez cité les presque 300 morts, presque 200 morts cette année, mais l'année dernière, on a eu plus de 300. En 2022, il y a eu 600 morts également, à chaque fois des millions de déplacés. Et le réchauffement climatique a sans doute rendu beaucoup plus fréquent et plus intense ce type d'événement.
Alors, vous parlez du dérèglement climatique, raison également invoquée par les autorités nigérianes, qui pointent du doigt également, Benjamin Sultan, les constructions non réglementées. Visiblement, voilà, des maisons ont été construites là où il ne fallait pas. Et à cela s'ajoutent également les canaux de drainage qui ne sont pas suffisamment entretenus.
Une fois que le réchauffement climatique en fait, a augmenté l'intensité des pluies, ensuite les inondations, le bilan humain, les dégâts matériels et économiques sont souvent finalement liés à d'autres facteurs hein, qui sont la gestion de mauvaise gestion de ces événements. Il y a des nombreux facteurs comme le mauvais drainage des eaux, comme des constructions qui sont souvent précaires dans des zones inondables, l'obstruction aussi de canalisation par des déchets. Cette année, dans la ville du Nigeria qui a été la plus touchée, à cause de bus d'évacuation bouchés, il y a eu des eaux boueuses qui ont emporté des centaines de maisons. Et puis, il y a également des services d'urgence qui sont saturés, des habitants qui peuvent être liés à eux-mêmes. Et parfois, ils sont touchés plusieurs années de suite par les inondations, ils sont forcés à se déplacer, donc ils n'ont pas le temps de reconstruire dans des zones saines, dans des bonnes conditions, ils ne sont pas forcément indemnisés à chaque fois, donc ils sont de plus en plus vulnérables et ils s'appauvrissent.
Allez, merci en tout cas, Benjamin Sultan, de nous avoir expliqué, éclairé sur la situation, notamment à Mokwa, où, je le rappelle, plus de 200 morts ont été recensés. C'est le bilan encore provisoire, puisque des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Fabrice, bon courage à vous, vous qui avez également les pieds dans l'eau à N'Djamena. D'ailleurs, auditeurs et auditrices de N'Djamena, si vous souhaitez témoigner de vos conditions de vie face à ces inondations qui vous frappent, profitez-en demain dans la libre antenne pour nous interpeller et témoigner. 33 9 693 693 70. Bonjour Brahim.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Vous avez des questions sur la Libye, secouée oui. par une crise.
Oui, exactement. Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte se sont réunis au Caire pour trouver une issue de la crise libyenne. Juan, je voudrais savoir, de véritables solutions ont-elles été proposées?
Ah, bonne question. On va voir ce qu'ont proposé les pays voisins de la Libye. Bonjour Houda Ibrahim.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI. Il faut quand même rappeler le contexte. Hein, depuis 3 semaines, Tripoli est le théâtre de manifestations très importantes réclamant le départ du gouvernement, le départ du Premier ministre reconnu par les Nations Unies. Une population en colère après les affrontements du mois dernier au cœur de la capitale entre des milices, les forces loyales au gouvernement, des combats qui ont fait plusieurs morts. Concrètement, qu'ont proposé les ministres de ces 3 pays pour essayer de mettre un terme à cette crise ?
D'abord, il faut rappeler que ce mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, qui a été créé en 2017, a été suspendu en 2019. Il vient d'être réactivé avec la réunion du Caire dimanche dernier. Les 3 pays réunis considèrent qu'il y a urgence à agir aujourd'hui afin de parvenir à une solution politique, surtout après les tensions récentes. L'escalade de violence à Tripoli risque de faire revenir le pays à la case départ. Parvenir à une solution évitera une nouvelle escalade de la violence, du terrorisme et de la possibilité de l'élargissement du conflit. Les 3 pays voisins de la Libye travaillent sous l'égide de l'ONU. Ils ont toujours été associés aux efforts internationaux pour sortir le pays de la crise, mais ils ont constaté un ralentissement et une baisse de tension de la part de la communauté internationale par rapport à ce dossier depuis le début de la guerre en Ukraine, puis la guerre au Soudan et à Gaza en Palestine.
Donc l'idée, c'est d'attirer de nouveau l'attention de la communauté internationale sur la crise libyenne.
C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Oui. C'est un soutien aussi, un appui à l'ONU.
D'autant que les 3 pays subissent directement les répercussions de cette crise.
Oui, la Libye possède de longues frontières avec ces 3 pays. Ces frontières ont connu et connaissent beaucoup de tensions et ces 3 pays sont donc le premier à essuyer les conséquences de l'instabilité libyenne. Ils sont le premier à être impactés. Cela touche la sécurité nationale de l'Algérie qui ne veut surtout pas voir des mercenaires russes à sa frontière. C'est le cas avec l'Égypte et la Tunisie qui luttent contre le trafic d'armes, du terrorisme. À travers ces frontières, le Caire, Alger et Tunis sont aussi inquiets pour leur propre sécurité et cherchent à éviter les conséquences multiples de l'insécurité libyenne sur leur propre sécurité nationale.
Ouais. Brahim, vous avez une dernière question?
Oui. L'Égypte est souvent jugée trop proche du camp de l'Est. Est-ce que cela ne va pas fausser les négociations?
Alors, le camp de l'Est, c'est le maréchal Haftar, hein, qui contrôle l'Est et le Sud du pays.
Exactement. Cela joue un rôle, effectivement, et à une précédente période, il y avait des tensions entre le Caire et Alger, jugées plus proches de Tripoli. Mais le Caire pragmatique s'est rapproché aussi du camp de Tripoli et a accueilli plusieurs réunions libyennes afin de rapprocher le point de vue entre Libyens, malgré son soutien affiché au camp du maréchal Haftar. Sur le fond, ces pays sont d'accord entre eux. Le ministre des Affaires étrangères a d'ailleurs réitéré leur position constante sur ce conflit, le rejet de toutes ingérences étrangères, le départ de tous les mercenaires et des forces étrangères, la dissolution de milices, le retrait des armes et le soutien au processus politique et à l'unité du pays.
Voilà donc pour les principales recommandations des trois pays voisins de la Libye. Brahim, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait des explications de Houda Ibrahim?
Oui, merci à Houda, je suis tellement satisfait.
Eh bien voilà, bonne journée à tous les deux. Houda Ibrahim et son grand sourire qu'on n'entend pas à la radio, mais que j'ai vu et que je vous transmets, Ibrahim. Il est 10h26, on prend une dernière question au standard d'appel sur l'actualité. Bonjour Hubert.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui nous reçoivent en Asie orientale.
Ah, en Asie orientale, très bien. Bah écoutez, vous avez peut-être de la famille sur place, on la salue. Quelle est votre question Hubert?
Juan, le nouveau président sud-coréen a exprimé son intention de renouer le dialogue avec le voisin nord-coréen. Mmh. Où en sont les relations entre ces deux pays? Les nord-coréens pourraient-ils accepter cette proposition?
Alors, c'est vrai que lors de sa prestation de serment avant-hier, le nouveau président sud-coréen a promis de tendre la main à la Corée du Nord. Bonjour Théo Clément.
Bonjour.
Chercheur indépendant, spécialiste du développement économique de la Corée du Nord, le nouveau président sud-coréen prône le dialogue et la coopération, ce qui n'était pas l'approche de son prédécesseur.
Alors non, ce n'était pas du tout l'approche de son prédécesseur, qui était extraordinairement sévère et strict à l'égard de la Corée du Nord. Bon, voilà, je crois que l'histoire a un peu jugé les résultats que ça a eu. Son prédécesseur à lui, donc Moon Jae-in, qui était un démocrate, comme le nouveau président sud-coréen, était plutôt partisan du dialogue avec la Corée du Nord. Il y a eu des avancées symboliques qui ont été faites à l'époque, mais qui n'ont pas été suivies de beaucoup de résultats, ce qui, je pense, couplé à la diplomatie aussi un peu spectaculaire, mais malheureusement menée en échec de Donald Trump vis-à-vis de la Corée du Nord, a beaucoup refroidi les Nord-Coréens,
ouais.
Sur les perspectives de coopération.
Théo Clément, pour répondre à la question d'Hulbert, est-ce que les Nord-Coréens vont accepter la main tendue du nouveau président Lee Jae-myung?
Ben écoutez, j'ai posé la question mardi à un diplomate nord-coréen, le jour de l'élection de Lee Jae-myung, et la réponse a été absolument sans appel. La réponse est non.
Ah.
D'abord parce que la Corée du Nord a changé son objectif de réunification de la péninsule, qui était l'objectif depuis la fondation du régime, depuis 1848. Donc il y a vraiment un changement à 180 degrés. Les Nord-Coréens, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce qui m'a été expliqué, les Nord-Coréens sont fatigués d'essayer de tendre la main. Bon, si on regarde dans le détail, c'est pas forcément vrai. J'étais un peu surpris de l'aplomb de mon interlocuteur, mais je suis pas surpris du résultat, dans la mesure où en fait la Corée du Nord vit une relation qui est beaucoup plus étroite, beaucoup plus rémunératrice, beaucoup plus stable et opportuniste avec la Russie, et qu'on voit mal ce que la Corée du Sud ou ses alliés pourraient offrir à la Corée du Nord pour changer son jeu d'alliance. Donc, à mon avis, c'est effectivement voué à l'échec.
Bon, on suivra cela, évidemment, dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, ce qui est important de souligner, c'est que le nouveau président sud-coréen n'a posé aucune condition préalable pour renouer le dialogue avec Pyongyang. Merci de vos explications, Théo Clément, spécialiste du développement économique catholique de la Corée du Nord. Et je remercie Hubert, bien évidemment, qui nous appelait d'abécher. Toutes les explications et les réponses à vos questions sur l'actualité sont à réécouter, évidemment, à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Et vous nous suivez également sur la chaîne YouTube de RFI. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder également. Il est 10h30 ici à Paris.